Okay, bonjour à tous et à toutes. On va commencer par une petite méditation pour se mettre dans le bain. Donc on va juste 5-6 minutes, se concentrer sur la respiration, développer l'attention au souffle, essayer de ne pas être soumis aux perturbations mentales ou aux pensées en tout cas perturbatrices qui peuvent s'élever dans notre esprit. Essayer de bien rester focalisé, bien collé à l'objet que l'on a décidé de maintenir dans son attention, que ce soit le souffle, que ce soit une image du Bouddha Shakyamuni ou une autre image mentale que l'on aime bien. Bien sûr, cette image mentale doit être la plus neutre possible, ne doit pas amener des perturbations mentales. On se concentre pas sur quelqu'un qui pourrait nous faire élever de l'attachement ou de la colère. C'est pas le but de cette méditation, c'est plutôt d'apaiser l'esprit et d'être serein. Donc, comme ce matin, on va terminer en imaginant qu'on inspire de la lumière par la narine droite, et que cette lumière, donc, elle contient toutes les bénédictions des Bouddhas et Bodhisattvas, toutes leurs qualités de compassion, de sagesse, tout leur pouvoir, qui entre en nous et qui chasse toutes les impuretés de notre corps, notre parole et notre esprit, qui s'échappent par la narine gauche et vont se perdre dans l'espace sous forme de fumée noire. Sans polluer. Et on respire profondément par les deux narines. Et ensuite, on bloque l'air au niveau du nombril. Quatre travers de doigts en dessous du nombril. On retient l'air quelques instants dans cette région, dans cette zone. Puis on relâche lentement, sans forcer. On fait ça 3 fois. Ensuite, on reste dans un état complètement impartial, complètement neutre, où on voit que tout ce qui s'élève dans notre esprit, les pensées, les sentiments, les émotions, quoi que ce soit, les images, représentations, souvenirs et autres, sont complètement vides d'essence, d'essence propre, sont de la nature de l'espace. Donc on les voit apparaître, on les voit s'élever, on les voit disparaître dans cette immensité de la nature de notre esprit. Parfaitement spacieux et clair, lumineux, sans obstacle. Au sein de cet espace lumineux, qui est la nature de notre esprit, on fait apparaître des pensées de compassion, de bienveillance, qu'on dirige vers nous-mêmes et vers tous les êtres qui peuplent tout l'univers. En souhaitant que toute leur souffrance s'apaise, et qu'ils atteignent aussi l'état de Bouddha. On peut refaire la même visualisation que ce matin, si on veut, avec le coussin de lune, avec le disque de lune et le Vajra dessus, donc qui purifie notre corps, et qui, au-delà de notre corps, tous ces rayons de lumière vont toucher les êtres. Les purifie, transforme leur esprit et les amène à l'éveil. Bien. Alors, donc, on va essayer de comprendre un peu comment fonctionne cette la roue de la vie, les 12 liens de la production interdépendante. Mais, voilà. Donc, on va voir les 12 liens. Voilà. Bon, ce sera. Donc, les trois au centre de la roue de la vie. Il y a ce qu'on appelle les trois poisons, hein, qui sont représentés par trois animaux. C'est que la roue de la vie, c'est plusieurs cercles concentriques. Donc ça, c'est le cercle central, le plus petit, qui est représenté donc par les trois émotions perturbatrices fondamentales, donc qui sont l'ignorance, représentée par un cochon. Hein, et vous voyez que l'ignorance tient dans sa bouche les deux émotions suivantes, l'attachement et l'aversion. L'aversion est représentée comme par un serpent et l'attachement normalement par un coq. Bon, ça veut être un coq. L'attachement. Donc voilà les trois poisons dans l'ordre, c'est ignorance, attachement et aversion. Ce qu'on appelle les trois poisons. Ils ont juste mis ceux-là, hein, qui sont les plus fondamentaux. Voilà, donc ça c'est le moyeu central de la roue de la vie. Voilà. Ok. Voilà, c'est représenté, c'est le centre. Donc, ensuite, vous avez un autre cercle qui est divisé en deux hémisphères. Avec donc les représentations des différents mondes. Donc en noir, c'est les mondes obscurs, les mondes inférieurs, et en blanc, c'est les mondes supérieurs. Hein. Donc dans les mondes inférieurs, ben on chute, on tombe la tête en bas. Hein. Donc soit les animaux en haut, les esprits avides là avec le gros ventre, ou les êtres des enfers qui crachent des flammes de toutes parts. Bien sûr, plus on est au fond, plus les souffrances sont intenses. Donc les souffrances animales sont moindres, les souffrances ensuite des prêtas, et ensuite les souffrances des êtres des enfers. Et parallèlement, donc de l'autre côté, c'est le côté où on remonte, donc la tête en haut, et c'est les mondes supérieurs, avec dans l'ordre le monde humain, où il y a des souffrances et des bonheurs, le monde des titans ou des combattants, des demi-dieux, voilà, on les appelle des demi-dieux ou des titans, et en haut, tout en haut, le monde des dieux. Donc là aussi, c'est inversement proportionnel au nombre de souffrances. Hein. Dans le monde humain, il y a plus de souffrances que dans le monde des dieux. Les mondes des dieux sont dans leur domaine céleste. Mais ils sont pas complètement heureux puisqu'ils ont aussi des souffrances, notamment celles du moment de la mort. Donc voilà le deuxième cercle. Et ensuite, tout autour, sur le moyeu extérieur, je sais pas si on l'a ici, complètement extérieur, vous avez ce qu'on appelle les 12 liens de la production interdépendante. Et le premier de ces liens, bien sûr, le lien fondamental, le lien qui décide de tous les autres, qui entraîne tous les autres, c'est l'ignorance. Donc l'ignorance qui est une confusion, qui est un aveuglement, c'est pour ça qu'elle est représentée par un aveugle qui ne sait pas trop où il va. Donc il ne connaît pas vraiment, il ne voit pas la relation qu'il y a entre la cause et l'effet, c'est-à-dire le karma. Il ne comprend pas trop comment ça se passe, le karma. Et bien sûr, confusion aussi par rapport à la réalité des choses. Il ne voit pas la réalité qui est là autour de lui, parce que voilà, il ne voit pas la nature véritable des phénomènes. Donc il est représenté, l'ignorance est représentée par un aveugle qui s'appuie sur un bâton. Pourquoi ? Ben pour essayer d'avancer, donc mais essayer d'avancer un peu à tâtons, quoi, disons, dans le noir, dans son aveuglement, mais aussi pour montrer le bâton montre que l'ignorance est très faible en fait. Elle est représentée comme une vieille personne qui un vieillard qui est faible, hein, Pourquoi donc elle est représentée comme un vieillard qui est faible en fait? Parce que l'ignorance est fondée sur une elle n'est pas fondée sur une perception juste, une perception valide. Elle est fondée sur une perception fausse. Donc pour l'éliminer, en fait, il suffit d'éliminer cette perception fausse et de la remplacer par une perception correcte. Et là, on élimine l'ignorance. Donc l'ignorance n'est pas quelque chose de très fort, comme on pourrait le croire, mais comme quelque chose de très faible. Ce serait le maillon faible, en fait, de ces 12 liens. Hein, ces 12 maillons de la production interdépendante, pour les faire sauter, il faut taper dans l'ignorance. C'est le maillon le plus fort. Et si on élimine ce maillon, eh ben, tous les autres sautent. Donc c'est là, en fait, c'est le niveau où il faut agir. Hein. Donc ici, cette ignorance, elle va être... je vous l'expliquerai un peu plus tard. On a parlé ce matin des karmas introducteurs. Donc ces karmas introducteurs vont être créés, hein, ils vont être motivés, ils sont motivés par l'ignorance. Donc c'est là où ça se joue en fait, au niveau fondamental, au niveau de base. Tous ces moments d'ignorance vont motiver des karmas introducteurs. Deuxième lien, deuxième chaînon de cette roue, c'est ce qu'on appelle les formations karmiques, ou le karma si vous voulez, où vont passer les karmas introducteurs ou les karmas propulsifs. Où ils sont créés, ils sont motivés par l'ignorance, mais ils sont créés par ces formations karmiques. Donc les formations karmiques, c'est un potier, vous voyez, qui donne forme à un objet. Hein. Donc il forme, hein, c'est là où le karma se forme en quelque sorte. Une action va commencer une séquence qui aura de nouvelles conséquences. Hein. Mais à la base de ça, il y a l'ignorance. Mais après, donc, les actions vont, fondées sur l'ignorance, vont apporter des toutes sortes de conséquences. Donc, un potier, vous savez, normalement, un potier, il crée son pot et il y a une roue qui tourne pratiquement sans effort, en fait. Et c'est un petit peu ça, en fait, qui se passe ici, c'est que la roue tourne sans avoir besoin de faire de nouveaux efforts. Une fois qu'il a lancé le mouvement, eh bien, il crée son pot, comme ça, et ça se fait un peu tout seul. Donc, l'action, en fait, ici, va créer un potentiel qui va se poursuivre sans effort, hein, jusqu'à ce qu'il porte son fruit. Donc là, c'est un passage assez intéressant, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se crée au moment du karma? Cette action, c'est quoi? Il y a une action qui est faite, mais qu'est-ce qu'elle crée? Elle crée un potentiel, en fait. Un potentiel qui va mûrir. Sauf s'il est arrêté par une action positive ou une action négative qui va l'empêcher de mûrir. Mais normalement, donc, il suit son cours et jusqu'à ce qu'il mûrisse. Donc là, c'est vraiment le terrain, c'est l'atelier, si vous voulez, du karma, où les causes se créent et elles vont se poursuivre sans effort, en laissant une empreinte dans le courant de conscience, jusqu'à ce que cette empreinte mûrisse. Et l'empreinte, elle n'a pas besoin de faire d'effort. Hein. Elle est là, elle est dans le courant de conscience. Hein. À la limite, on fait un effort, quand le potier fait un effort, mais une fois qu'il a créé son objet reste là, dans la conscience. Donc la conscience, ça va être le troisième lien. Voilà. C'est le troisième lien. C'est là où vont être stockés les karmas, les graines. Donc c'est là où vient s'imprimer, en fait, le potentiel du karma, là, qui a été créé au lien numéro 2, hein, va s'imprimer dans cette conscience primaire. C'est la conscience causale, ici. C'est une conscience causale qui va porter cette empreinte jusqu'à ce que l'effet mûrisse. Hein? Donc elle transporte, en fait, la conscience transporte l'empreinte, transporte ce potentiel jusqu'à ce qu'il mûrisse, jusqu'à ce que l'effet mûrisse. Donc cette roue de la vie, en fait, elle montre comment on renaît dans le samsara. Donc jusqu'à la prochaine naissance, la graine, l'empreinte karmique va rester dans la conscience jusqu'à ce qu'elle porte son fruit, c'est-à-dire jusqu'au premier moment de la vie suivante. En fait, la conscience, on pourrait la diviser en deux parties. Une partie causale et une partie résultante. Donc, la partie causale, c'est où la graine est mise. Et la partie résultante, c'est ce qui, plus loin, va, au moment de la naissance, va révéler, va donner le fruit. Donc, il y a un certain laps de temps qui a lieu entre le moment où le karma est mis dans la conscience et le moment où il va mûrir. Donc c'est toujours la même conscience, mais il y a un aspect causal et il y a un aspect, disons, résultant. Donc le résultant, en fait, c'est ça. C'est le premier moment de la conscience suivante, de la vie suivante, pardon. C'est le premier moment de la... Là, on est juste au niveau de la conscience, mais il n'y a pas eu encore... On est dans une vie précédente, si vous voulez, où on crée un karma, et ce karma, il va rester... dans la conscience, jusqu'à ce qu'il mûrisse dans une autre vie. Donc c'est un moment très bref, en fait, cette conscience résultante. C'est juste... voilà. Donc c'est représenté par un singe qui est très vif, qui saute de branche en branche, qui est très astucieux aussi, très malin. Donc ça symbolise en fait toutes les qualités de la conscience. Cette conscience qui est très, très rapide. Toutes les consciences sont extrêmement, extrêmement rapides. Donc ça, c'est donc le troisième lien. Ensuite, le quatrième lien, c'est ce qu'on appelle le nom et la forme. Le nom fait, alors, ça fait référence, en fait, le nom et la forme, ça fait référence aux cinq agrégats. Les cinq agrégats qui vont être formés à partir de la naissance. Donc le nom, pourquoi le nom? Le nom, ça fait référence aux agrégats mentaux et la forme, à l'agrégat de la forme. C'est qu'il y a cinq agrégats, forme, perception, sensation, formation volitionnelle et conscience. Donc la forme, c'est l'agrégat de la forme et les quatre autres, c'est les agrégats mentaux, ce qu'on appelle le nom ici. Donc le nom fait référence aux quatre agrégats mentaux, sensation, discrimination, facteur composé et conscience, et la forme fait référence à l'agrégat physique, le corps, autrement dit. Donc ce nom de la ce lien, il est créé au moment de la conception. C'est là que les agrégats sont créés. Donc, ce lien va durer à partir du moment de la conception jusqu'à l'apparition du prochain lien qu'on va voir. Le prochain lien, ça va être ce qu'on appelle les six sources, c'est-à-dire les six organes sensoriels. Mais là, ils sont pas encore créés, les organes sensoriels. On les a juste à l'état un peu embryonnaire, quoi, si vous voulez. Donc, le bateau qui vogue là sur les flots, là, c'est la forme. Il y a une forme qui transporte en fait les consciences, qui transporte les agrégats mentaux. Et les personnes, normalement il y en a quatre, bon, il y en a pas trois, ce sont les agrégats mentaux. Donc la forme, comme une barque, emmène les autres agrégats en voyage sur le lac de la vie. C'est la forme qui transporte, c'est notre corps en fait, qui transporte les agrégats. Voilà. Donc, ensuite, donc ben, voilà, le lien suivant, c'est ce qu'on appelle les six sources sensorielles, c'est-à-dire nos facultés sensorielles. L'œil, c'est ce dont on parle dans le sutra du cœur, vous savez, quand on est, il n'y a pas d'œil, il n'y a pas d'oreille. Voilà. C'est toutes ces classifications là. L'œil, donc les six sources, c'est l'œil, l'oreille, le nez, la langue, le corps et le mental, qui sont représentés ici par ces six fenêtres. Les cinq fenêtres sensorielles et la conscience mentale. Et le mental. Donc, à quoi elles servent ces six facultés? Ben, elles servent à faire connaître les objets. Hein? Grâce à l'œil, on perçoit les formes. Grâce à l'oreille, on entend les sons. Grâce au nez, on sent les odeurs. Grâce à la langue, on goûte les saveurs. Grâce au corps, on a des contacts. Et grâce au mental, eh bien, on peut élaborer toutes sortes de conceptions. On a toutes sortes de conceptions. Donc, voilà, c'est les six facultés sensorielles, les six facultés au moyen desquelles on connaît six objets. Donc on les appelle les six sources ou les six bases de la connaissance, si vous voulez. Les six sources de la connaissance ou les six bases de la connaissance. Hein. Source, parce que c'est de là qu'émergent les consciences. Hein. Si on n'avait pas d'œil, les consciences pourraient pas, la conscience visuelle ne pourrait pas émerger. Si on n'avait pas d'oreille, la conscience auditive ne pourrait pas apparaître. Donc ce sont les sources d'où émergent les différentes consciences sensorielles. Donc, pour un être humain, en fait, naît d'une matrice, hein, et dans ce cas, quand il naît, il n'a que les organes sensoriels du corps et du mental dès la conception. Les quatre autres vont se développer plus tard. Il n'a que l'organe sensoriel du corps et l'organe du mental qui apparaissent au moment de la conception. Et les quatre autres, les organes œil, oreille, nez et langue vont se développer plus tard. Donc au cinquième lien, on dit que les six sources sont complètement développées, mais elles ne produisent pas encore de conscience. Elles sont là, mais elles ne produisent pas, ça va être plus tard. C'est pour ça qu'on représente cette maison qui est vide avec six fenêtres. Elle est vide, où les volets sont fermés. Il y a les volets, il y a les fenêtres, si vous voulez, mais les fenêtres, on ne perçoit rien à travers les fenêtres. Ça veut dire que la maison est vide aussi en attente de ses occupants. Les occupants ne sont pas arrivés. Comme les six sources, là, qui attendent le développement de leur conscience respective. Les consciences ne sont pas encore là, autrement dit. Tout ça, donc, c'est progressif. Alors ensuite, c'est le sixième lien, sixième chaînon, le contact. Donc le contact, c'est un facteur mental qui crée la rencontre, qui opère la rencontre avec des objets, des organes sensoriels et des consciences. Pour qu'un contact ait lieu, il faut qu'il y ait ces trois éléments. Hein. Il faut qu'il y ait l'organe, il faut qu'il y ait l'objet et il faut qu'il y ait la conscience. Pour chacune des six. Donc ça va faire 18 en tout. C'est ce qu'on récite dans le Sutra du Cœur. Hein, quand on dit il n'y a pas d'œil, tout ça. On énumère en fait les 18, on énumère les sources donc de perception avec leurs objets et avec les consciences. Donc ça c'est pour que le contact puisse s'opérer. Donc il faut qu'il y ait ces trois choses. Hein, objet, organe sensoriel et conscience. Avant cela, ça veut dire qu'il n'y a pas de connexion. Il n'y a pas de contact. Même s'il y a les sources sensorielles, on ne fait pas l'expérience des objets. On est dans un état embryonnaire où il n'y a pas encore d'expérience du monde extérieur. Donc, à partir du moment où il y a le contact, ça veut dire qu'il y a la connexion avec ces 18 choses. Et ce lien va durer toute une vie. Toute la vie, on a des contacts. Toute la vie, normalement, c'est pas l'accident, hein, notre conscience visuelle fonctionne, auditive, etc. Et tout ça crée le contact. On peut voir des formes. Il y a un contact qui se crée entre notre œil, l'objet que je vois, et la conscience visuelle. Trois choses. Pareil pour l'oreille, pareil pour les, etc. Mental et tout. Donc ce lien, sa fonction donc de ce lien est de va être un peu à travers le contact de discriminer les objets qui sont attrayants, déplaisants ou neutres. Hein, grâce à cette rencontre, automatiquement, dès qu'il va y avoir rencontre, il va y avoir en même temps une discrimination entre ce qu'on va trouver attrayant, ce qu'on va trouver agréable, ce qu'on va trouver pas beau, ce qu'on va trouver laid ou ce qui va nous apparaître comme étant complètement neutre. Et ça vient avant la sensation. Cette discrimination, on l'a avant la sensation. Donc c'est représenté ici par un couple enlacé, ce contact. Hein. Alors ensuite vient la sensation, justement. Une fois qu'on a établi toutes ces choses-là, tous ces 18 facteurs, et qu'on a déjà établi une discrimination mentale entre ce qui est agréable, pas agréable, il va y avoir la sensation. Donc à partir du contact, apparaît une sensation de bonheur, une sensation de malheur, ou une sensation d'indifférence. Donc là, c'est une sensation assez douloureuse de recevoir une flèche dans l'œil. Pour marquer donc cette sensation. Donc la sensation, c'est quoi? C'est un facteur mental qui réagit à un objet sensoriel. Cet objet sensoriel, ici, donc c'est la flèche, que le contact, ce qu'on a vu avant, distingue comme étant attrayant, déplaisant ou neutre. Et ça se produit donc lors d'une expérience, d'une sensation bonne, mauvaise ou neutre, produisant bonheur, malheur ou indifférence. Donc voilà. Donc ça dure aussi pendant toute une vie. Hein. Les sensations donc sont ressenties pendant toute une vie. Et ça va servir de base aux liens suivants. Hein. Vous savez, les liens sont interdépendants. Donc chaque lien donne naissance ou donne de la force aux liens suivants. Donc ici, donc c'est représenté par cette sensation, elle est représentée par un homme dont l'œil est percé par une flèche. Et en fait, ça veut dire que la sensation est tellement forte, quelle que soit la sensation d'ailleurs, qu'elle soit déplaisante ou qu'elle soit plaisante, la sensation est toujours forte, et si bien que nous ne pouvons pas rester tranquilles. Il y a automatiquement, dès qu'il y a contact, après qu'il y a eu contact, l'instant suivant, il y a une sensation très forte qui se produit. Donc c'est pour ça que le contact est mis avant la sensation. Donc le lien suivant, ça s'appelle la soif. La soif fait partie de l'attachement. Hein, ça fait partie de l'attachement. Une fois qu'il y a eu contact, une fois que le contact a produit la sensation, contact et sensation vont produire l'attachement. Hein, ce qu'on appelle la soif. Hein, c'est un autre mot pour parler de l'attachement. La soif. Donc, des sensations plaisantes, nous en voulons toujours plus. Des sensations désagréables, nous voulons en être séparés. Et les sensations neutres, nous voulons tout simplement qu'elles continuent. Donc, cette soif, donc, c'est lié à l'attachement, à l'aversion et à l'indifférence. Pourquoi soif? Parce qu'en fait, plus on boit, plus on a envie de boire. C'est l'attachement, hein. Donc c'est un facteur mental qui augmente en fait le désir, mais qui ne donne pas une vraie satisfaction. La soif, hein. Il n'y a pas de satisfaction. Il n'y a jamais de satisfaction dans la soif. On boit tout le temps. Donc cette soif va durer, dans ce contexte-là, va exister depuis le nom et la forme, depuis que les agrégats sont créés, ça va durer jusqu'au lien suivant, qui est ce qu'on appelle la saisie, qui fait aussi partie de l'attachement, mais qui est en fait une soif plus intense. Une fois qu'on a eu cette soif, il y a le fait de saisir ce qui va nous procurer, ce que l'on croit, qui va nous procurer du plaisir, du bonheur. Donc, on pourrait traduire aussi ça par l'appropriation. Hein, l'appropriation, si au lieu du mot saisie. Mais là, saisie, c'est assez explicite. Hein. Donc, la soif et la saisie, les liens 8 et 9, donc, désignent des moments d'attachement. Hein. Seulement des moments d'attachement et de saisie, donc, qui vont nourrir ou qui vont activer un potentiel karmique. Donc ça, c'est très très important, ces deux facteurs-là, ces deux liens. C'est ça qui va activer le potentiel karmique qui est mis dans la conscience. S'il n'y a pas la soif et s'il n'y a pas la saisie, le potentiel karmique ne va pas être activé. Mais à cause de ces deux facteurs, c'est pour ça que le désir, c'est pratiquement aussi fort que l'ignorance. Dans certains, on trouve ça dans, expliqué dans les sutras, hein, où les disciples demandent au Bouddha, qu'est-ce qui est plus fort, l'ignorance ou le désir? Ben, c'est un petit peu ensemble, hein. Parfois on dit c'est soit l'ignorance qui est la base du samsara, parfois on dit que c'est le désir. Donc ici, donc c'est l'attachement dans le cadre donc des 12 liens. C'est des moments d'attachement et de saisie qui vont nourrir et qui vont activer un potentiel karmique particulier, hein, et qui vont, en fait, leur rôle, ça va être de projeter la conscience dans la vie suivante. Hein. Donc c'est pour ça qu'ils sont si importants. Et quand est-ce que ça va se produire, ça? Ben, ça va se produire au moment de la mort. C'est à ce moment-là qu'ils vont projeter la conscience dans la vie suivante. Et là, on voit donc un singe qui s'empare d'un fruit, c'est-à-dire que, qui s'approprie en fait ce qu'il désire, l'objet de son désir. Donc la saisie ou l'appropriation saisit mentalement les objets qu'on désire. On passe au lien suivant, qui s'appelle le devenir, ou l'existence. Parfois, c'est traduit par l'existence. On peut traduire l'un ou l'autre. L'existence. Donc là, ça nous ramène un peu à la conscience qui a été déposée dans la graine karmique, ou l'acte karmique plutôt, qui a été déposé dans la conscience, qui a mis une graine a été mise au moment causal. Et puis cette graine va être nourrie par la soif et la saisie. Et ça va donner lieu au lien suivant qui s'appelle le devenir, c'est-à-dire c'est la même graine karmique qui devient quelque chose. Hein. C'est le moment résultant, si vous voulez, de la potentialité karmique ou de la prédisposition karmique. Lorsque cette prédisposition karmique, elle a été nourrie par la soif et par la saisie, elle a atteint sa pleine capacité à obtenir un résultat. Avant, quand elle est au stade causal, elle n'a pas sa pleine capacité. Pour obtenir sa pleine capacité de produire un résultat, il faut qu'elle soit nourrie par la soif et la saisie. Et donc c'est ce lien-là, c'est ce lien qui explique le devenir, c'est-à-dire que ce potentiel est complètement mûri et il est prêt à se manifester dans une existence suivante, hein, dans l'existence suivante. Donc pleine capacité à produire, le résultat n'est pas complètement apparu encore, c'est l'instant avant de produire le résultat. Le résultat, donc, c'est la vie prochaine. C'est pour ça qu'on l'appelle l'existence ou le devenir. C'est un moment qui est en devenir, si vous voulez. Hein. C'est la graine karmique qui est pratiquement, qui va pratiquement mûrir. Donc, ça veut dire que le karma a atteint son plein potentiel, qu'il est sur le point de produire son résultat, la vie qui vient. Le Dalai Lama dit que c'est un exemple où on donne au résultat, non, on donne à la cause le nom du résultat. Parce que, ouais, on donne à la cause le nom du, c'est par exemple, si vous plantez vous mettez une graine dans la terre et vous dites, ah, ce matin j'ai planté un arbre. Vous n'avez pas planté un arbre, vous avez planté une graine. Mais vous pouvez dire, ouais, j'ai planté un arbre. Parce que vous projetez déjà dans le résultat. Vous mettez là. Donc on donne à la cause le nom du résultat. Et c'est ce qui se passe ici en fait. On donne à la cause le nom du résultat, c'est-à-dire le devenir. Donc qu'est-ce que ça représente? Une femme enceinte dans les derniers moments de la grossesse, dans les derniers stades de la grossesse, sur le point d'accoucher. Donc hein, c'est ça. Hein, donc le devenir. Donc le lien suivant. Tout logiquement, donc, tout naturellement, ça va être la naissance. C'est le moment précis où la conscience qui a mûri, hein, enfin, la conscience, c'est pas la conscience qui a mûri, mais les graines qui sont dans la conscience, donc, ont mûri et la conscience entre dans la nouvelle naissance, hein, l'état de naissance qui suit. Donc, c'est une nouvelle vie qui commence. Donc ça se produit simultanément. On va y revenir. Je ne peux pas vous le dire tout de suite. Vous allez comprendre avec l'aide d'un autre tableau. Donc à partir là, c'est le premier moment de la naissance. Donc les agrégats sont formés, hein, sont là. C'est-à-dire c'est l'enfant qui est né avec ses agrégats tout constitué. Et au second moment, hein, le vieillissement va commencer. C'est-à-dire au deuxième instant de le premier instant c'est la naissance et le deuxième c'est le vieillissement. Entre parenthèses, on dit qu'il y a quatre lieux de naissance possibles. Ou quatre types de naissance possibles. Il y a la naissance par la matrice, à partir d'une matrice. Il y a la naissance ovipare, un œuf. Il y a la naissance à partir d'un œuf. Il y a la naissance par l'humidité et la chaleur. Hein, et il y a la naissance miraculeuse, ou spontanée, dans un lotus. Donc c'est ce qu'on a. On parle de ces quatre types de naissance. Ici, c'est une naissance, donc, par la matrice. Donc, deuxième instant, le lien suivant, le douzième, qui est le dernier lien, hein, c'est le vieillissement et la mort. Donc, à partir du deuxième instant de la conception, naissance et conception, c'est pareil, hein, en bouddhisme tibétain. On parle de naissance à partir du moment au moment de la conception. Donc au deuxième moment, c'est le vieillissement progressif à chaque instant de notre vie. Ok. On peut parler aussi du dépérissement, d'une dégénérescence, donc qui commence à partir. Dès qu'il y a naissance, il y a vieillissement. Hein, il y a dépérissement, il y a dégénérescence. Et la mort, qu'est-ce que c'est que la mort, en fait? C'est le moment où la conscience va se séparer du corps précédent pour se diriger vers une autre vie. C'est ça qui définit donc la mort dans le bouddhisme. Ce moment où la conscience est séparée du corps et va vers une autre vie. C'est pour ça qu'on compare souvent le corps comme un bateau qui transporte, qui va de vie en vie comme ça. Donc la fin de la vie, en fait, elle commence au 11e lien, hein, au deuxième moment du deuxième lien, du 11e lien. Donc ici, c'est représenté par une personne donc qui porte un cadavre sur son dos. Ça veut dire que dès le moment où l'on est, on porte en soi son cadavre. Donc voilà les 12 liens de la production interdépendante. Donc vous voyez comment ces liens sont, pourquoi on les appelle des liens, hein. Il y a un lien de causalité, de l'un à l'autre, et ça nous montre comment donc on prend naissance de vie en vie dans le samsara à cause de l'ignorance. L'ignorance donc étant le premier lien, le lien qui va déclencher tous les autres. Donc pour se libérer du samsara, donc c'est la deuxième type de méditation qu'on peut faire. Les arhats, les auditeurs, les auditeurs qui veulent devenir arhats vont méditer surtout sur les quatre nobles vérités. Sur ce qu'on a vu, l'origine de la souffrance, sur la vérité de la souffrance, la vérité de l'origine, etc. Ce qu'on appelle les bouddhas par soi, les pratiques à bouddha, méditent davantage eux sur les 12 liens de l'interdépendance, essaient de comprendre comment fonctionnent ces 12 liens. C'est très subtil, ce fonctionnement. C'est pour ça que, première fois, on en a une vision globale, on comprend pas tout, mais c'est un sujet extrêmement intéressant à analyser. Il y a plein de ramifications. Et donc, les pratiques à Bouddha, ce qu'on appelle les Bouddhas par soi, sont pas des Bouddhas, en fait. Ils vont devenir arhats, en fait. Ce sont des éveillés. On les appelle plutôt aussi des éveillés solitaires. Solitaires parce qu'en fait, il médite seul, souvent seul. Il peut être en groupe, mais souvent seul, dans des lieux isolés. Ils n'ont pas de maître, parce qu'ils en ont eu suffisamment dans les vies antérieures. Donc, ils ont récolté pas mal d'enseignements. Ils ont eu tous les enseignements possibles qu'il fallait avoir. Et là, eux, ils méditent. Donc, ils cherchent pas un maître. Ils ont tout ce qu'il faut. Et ils méditent principalement sur ces 12 liens. Et grâce à ça, ils se libèrent du samsara. En comprenant le fonctionnement des 12 liens. Hein? Comment ça fonctionne. La suite, je vais vous l'expliquer, je pense, par un autre tableau. Bon, peut-être que je peux commencer comme ça, puis après je vous montrerai un tableau. Ce sera plus explicite. Mais déjà, qu'est-ce qui se passe dans une première vie? On va essayer de voir ça sur deux vies, hein, comment ça fonctionne. Donc, dans une première vie, il y a, donc, on va prendre un cycle de deux vies. Il y a un peu de temps, il y a l'ignorance, donc, qui est à la base de tout. Et il y a la formation karmique et il y a la conscience. Donc, un potentiel est établi par ces trois premiers liens. Ce potentiel qui va être dans la conscience. Il est établi par l'ignorance, il est établi par le karma, et il est dans la conscience. Donc ça c'est ce qui se passe pendant d'autres vies, finalement. À cause de l'ignorance, on crée toutes sortes de karmas. Ces karmas, ils sont dans notre conscience. Ok? Qu'est-ce qui se passe au moment de la mort? Au moment de la mort, les trois liens suivants, la soif, l'appropriation ou la saisie, ou l'existence et le devenir, vont nourrir une certaine graine karmique, un potentiel, lequel on ne sait pas. c'est la loterie. lequel va être nourri le plus fort, certainement, hein, celui qui a le plus de chance, celui qu'on a le plus entretenu pendant notre vie. Donc, au moment de la mort, les trois causes, en fait, c'est la soif, l'appropriation et l'existence vont nourrir ce potentiel karmique. Et dans la deuxième vie, il va y avoir les six résultats suivants. Hein. Là, vous avez six causes qui vont donner six résultats. Ignorance, formation karmique, conscience, soif, appropriation, existence, ensuite vont donner, dans la deuxième vie, les six résultats, c'est-à-dire une naissance avec des agrégats, un corps et un esprit. Ces agrégats vont vieillir, hein, et puis en même temps que ça vieillit, en même temps qu'il y a les agrégats, il y a les six sources, il y a le contact, il y a la sensation, et tout ça continue à se produire pendant toute notre vie. Le vieillissement a commencé dès le deuxième moment de la naissance, c'est pour ça qu'il est juste en haut, et ça va durer jusqu'à la mort. Hein? Donc, six causes dans une première vie et six résultats qui apparaissent dans la deuxième vie. Ok? Ouais. On peut avoir un cycle en trois vies. Non, attendez. Je vous explique un peu. Pardon. Ah non, c'est pas ça. Donc deuxième vie, ça c'est ça. Donc oui, juste pour préciser, donc, je reviens peut-être dessus. Au même moment qu'il y a la naissance, hein, parce que bon, comme c'est listé, c'est pas très facile à voir. Au même moment qu'il y a la naissance, il y a le nom et la forme. Ok, c'est clair. Hein, au même moment. Et au moment suivant, il y a le vieillissement, suivi par les six sources, le contact, la sensation et la mort. Okay. Si on regarde sur un cycle en trois vies, donc dans la première vie, au lieu d'avoir six, on va avoir que les trois. On va avoir l'ignorance, la formation karmique et la conscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un potentiel est établi par les trois premiers liens au cours de la première vie. Et au cours de la première vie, il va être nourri par, au moment de la mort, hein, il va être nourri par les trois causes, par la soif, la saisie, mais les résultats vont apparaître, ils vont être nourris pendant la deuxième vie, et les résultats vont apparaître dans une troisième vie. Voilà, donc on a si on voit ça sur trois vies, on aura dans la première vie les trois premiers liens, ensuite on aura dans la deuxième vie la soif, l'appropriation et l'existence, et dans la troisième on aura les six autres, eux qui changent pas, hein. Qu'on les ait dans la deuxième vie ou dans la troisième vie, ça sera toujours les mêmes. La seule chose qui change, c'est ici au niveau de la deuxième vie, hein. Au lieu que ça se produise, que la soif, l'appropriation et l'existence se produisent dans la première vie, elles se produisent dans la deuxième vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la graine que vous avez mise, la graine positive par exemple, ne va pas forcément mûrir à ce moment-là. Mais elle va peut-être être nourrie. C'est au moment de la mort, c'est pas cette graine-là qui va être nourrie. Ça va être une autre. Mais la graine que vous avez mise, elle sera nourrie dans une vie suivante. On dit deuxième vie, mais ça peut être une troisième, une quatrième, une cinquième. Voilà. Je vais peut-être vous montrer un autre tableau pour mieux comprendre ça. Comment est-ce qu'on arrête le partage? Voilà. Ok. Je vais avoir un tableau quelque part, mais... Voilà, celui-là est pas mal. Partager l'écran. Voilà. Une manière plus schématique de présenter les choses. Voilà. Alors, est-ce qu'on voit tout là? Oh, ils sont... On peut pas. Le haut est un peu effacé, exact. Voilà, là ça va aller mieux. Sur Zoom, c'est bon? Vous avez plus le bas? Ben oui, voilà. On va y arriver. Il y a la barre du Zoom qui m'énerve. Voilà, bon. Alors, la roue de la vie maintenant, de manière simplifiée. Hein, je vous disais tout de suite, la première fois que j'ai reçu cet enseignement, je n'ai rien compris. Il n'y avait pas tous ces schémas, il n'y avait rien du tout, c'était traduit du tibétain, le traducteur était un peu dans les choux, parce que c'était difficile, on ne connaissait pas tous les termes encore, on n'avait pas établi le vocabulaire, c'était compliqué. Maintenant ça va mieux, je dois dire que je comprends pas tout, hein, mais je suis sûr qu'il y a des subtilités qui m'échappent, mais en, grossièrement je pense que... Je vais essayer de vous faire comprendre un petit peu comment ça compte. Mais je crois que vous avez compris déjà. Donc, premier lien, ignorance. Deuxième lien, entre les liens, vous avez tous les liens ici. Donc, en jaune, pourquoi en jaune céine, hein, c'est une cause introductive. Oui, les trois CI dont je vous ai parlé tout à l'heure là, dans la première vie, CI 1, CI 2, CI 3, en fait, ce sont des causes. Ce sont des causes introductives. Hein, c'est-à-dire l'ignorance, les formations karmiques, c'est-à-dire le karma introducteur, et la conscience. Ah, je voulais vous dire quelque chose de très important. On parle ici d'un karma introducteur, hein, c'est-à-dire d'un karma complet. Pas d'un karma incomplet. D'un karma propulsif, autrement dit, ou introducteur. Hein. Et on parle que d'un. Hein. On illustrera ça tout à l'heure, mais... On parle d'un seul. Hein. Donc, l'ignorance est une cause introductive. Le karma est une cause introductive aussi. Et pareil pour la conscience. Hein. Donc, on est au niveau causal ici. L'ignorance, c'est un facteur perturbateur. Hein. C'est une perturbation mentale. Le karma, ben, c'est un karma. Okay. Et la conscience est souffrance. C'est pour ça que quand vous avez un astérisque, c'est un facteur perturbateur. Deux, c'est un karma. Et trois, c'est une souffrance. Et on va les retrouver, ces trois facteurs-là. Facteur perturbateur, karma et souffrance. Au niveau, donc, on va diviser ça en quatre. Donc, niveau causal. Ensuite, on va voir le résultat qui a été introduit, donc ça c'est la cause introductive. Ensuite ça c'est le résultat introduit. Donc il y en a cinq. Vous voyez, la conscience est divisée en deux, la conscience 3A et la conscience 3B. La conscience 3A elle est causale, c'est la conscience causale, et la conscience 3B c'est la conscience résultante. Donc ensuite, comme résultat aussi résultat introduit, vous allez avoir le nom et la forme, vous allez avoir les bases de la connaissance, source de la connaissance, vous allez avoir le contact, vous allez avoir la sensation. Ça, ce sont les résultats introduits. Donc, le nom, tout ça, ce sont des souffrances. Le nom et la forme, les bases de connaissance, les contacts et les sensations sont souffrances. Pourquoi ? Parce que les agrégats sont contaminés. Ok. Donc ensuite, on va avoir la cause établissante. Donc ça, ce sont des causes introductrices et ça, ce sont des causes établissantes. C'est-à-dire la soif, l'avidité et le devenir. Elles vont établir le résultat qui va être la naissance. Donc pareil, la soif, c'est une perturbation mentale. L'avidité ou la saisie, c'est une perturbation mentale. Et le devenir ou l'existence, c'est un karma. Okay. Ce sont des causes parce que elles vont, ces trois facteurs vont activer la conscience. C'est pour ça qu'il y a cette flèche ici. Vous voyez la flèche là? Les trois facteurs activés, ces trois là, le devenir, l'avidité et la soif, vont activer la conscience causale. Ok? Ils vont l'activer. Ce qui va se passer, donc après, bon, ça va donner la conscience résultante avec les agrégats et tout ça. Les agrégats sont reliés à la naissance. Les 3B, 4 et naissance vont ensemble. D'accord ? Là, il n'y a pas encore eu naissance. À partir de ce moment-là, de la conscience résultante, il y a naissance. C'est pour ça que c'est ici. Et parce que les trois causes ici ont nourri cette conscience. Donc, elle arrive ici à maturité au niveau du devenir et ça va donner lieu à la naissance, la conception. Voilà. Premier instant de la conception qui est souffrance. Puisqu'on est avec des agrégats contaminés. Et ça continue, mort et vieillesse sont aussi souffrances. Ok ? Vous me suivez ? Où je vous ai perdu complètement. Presque. Donc, un dernier schéma pour vous aider à mieux comprendre encore. Un nouveau partage. Ah, je ne l'ai pas là, non. Je vais essayer de retrouver. Est-ce que c'est celui-là ? Non, c'est pas celui-là. Pas celui-là, c'est celui-là, ouais. Alors, partager. Voilà. Donc, c'est un enchaînement des 12 liens sur 2 vies par rapport à un karma introducteur donné. Donc, l'ignorance, à cause de l'ignorance, vous allez créer un karma. Vertueux ou non vertueux, Mais il sera contaminé, de toute façon, parce qu'il y a l'ignorance. On prend un exemple. On prend un petit exemple. Non, on le prendra tout à l'heure. Juste vous l'expliquer, puis après, on essaiera de trouver des exemples. On fera une pause avant. Donc, l'ignorance va amener une formation karmique. À cause de l'ignorance, on va créer un karma introducteur, complet. Avec la motivation, avec l'action, avec la réjouissance, avec tout. Et ça va se graver dans la conscience. Ça va s'imprimer dans la conscience causale. Okay. Bon, ici, dans les derniers instants de la vie, cette conscience causale, avec son empreinte karmique qui est dedans, va être activée par la soif, par l'avidité et par le devenir, qui sont des facteurs activateurs. Ces trois liens. Qu'est-ce que j'ai fait là ? Ok. Et là, il va y avoir un moment, donc, au moment de la mort, soif, avidité, devenir. Donc, le devenir va être vraiment ce qui va amener à maturité. Et au moment de la mort, il va y avoir ces trois moments qui vont être concomitants. c'est-à-dire la production des agrégats avec la conscience résultante, qui est un des agrégats, hein, et il va y avoir la naissance. Et tout ça, ça se produit en même temps, au premier instant de la vie de l'embryon. L'embryon naît, ce qu'on appelle la conception, dans sa conscience. Il y a ce potentiel qui a été créé dans la qui a été mis dans la conscience causale. Alors, ce potentiel, il reste là. Il reste latent. Et après, jusque là, à ce moment où il apparaît dans la conscience. Donc, pendant ce temps-là, le potentiel est latent. Là, il va se manifester. Il va être activé. Une fois qu'il a été activé, donc il va se manifester et il va donner lieu à l'agrégat, aux agrégats que vous allez prendre dans cette vie. Dans la vie suivante, pardon. Voilà. Et au deuxième instant de la vie, de l'embryon, après la conception, il y a ce lien qui s'appelle la vieillesse et la mort et qui dure jusqu'à la mort. Ah zut! Ah oui, exact. Ah, attendez. J'arrête le partage, je repartage. Ouais. Non, c'est pas ça. Voilà, c'est l'ancien. Ouais, il faut le fermer, celui-là. C'est plus compliqué que les 12 liens. Donc, je redisais pour ces deux zooms. Donc, ignorance, qui donne. À cause de l'ignorance, on crée un karma, positif ou non positif, mais karma contaminé, puisqu'il est lié à l'ignorance. Ce karma va déposer un potentiel dans la conscience causale. Dans la conscience, ce potentiel va être nourri par la soif, l'avidité et le devenir, le dernier moment, c'est-à-dire l'attachement, autrement dit. Et ce qui va apparaître, c'est le nom et la forme, la conscience résultante et la naissance, les trois étant concomitants. Au premier instant de la vie de l'embryon, la conscience causale, le potentiel qui était dans la conscience causale, va mûrir. Va se manifester, autrement dit, à travers certains agrégats qu'on va prendre dans la vie suivante. Deuxième instant, vieillesse qui commence et mort à la fin de la vieillesse, du vieillissement plutôt. Et avec le nom et la forme, les agrégats se développent. Vous avez la base de la connaissance, vous avez le contact, vous avez les sensations. Ça, c'est la deuxième vie. Première vie, on crée les causes, moment de la mort et deuxième vie. Donc voilà comment fonctionnent les 12 liens, dans le processus des 12 liens. Et est-ce que je... exact, tant qu'on n'est pas sorti du samsara, c'est infini, effectivement. Alors maintenant, je vais partager, comment on fait, nouveau partage, voilà, sur trois vies, si vous voulez. Voilà, ça va être la même chose. On va retrouver les trois dans la première vie, les trois liens dans la première vie. Mais là, il peut y avoir plusieurs morts. Il peut y avoir une mort ici. Ça veut dire que le karma que vous avez créé ici, il va pas forcément mûrir. C'est pas celui-là qui va mûrir au moment de la mort. C'est peut-être un autre. Donc, mais il sera latent. Il va rester dans votre conscience causale jusqu'à ce qu'il soit activé dans une troisième vie, une quatrième ou une cinquième, ce qui soit activé, par exemple, dans la deuxième vie, par la soif, l'avidité et le devenir. Et dans une troisième vie, il va produire des nouveaux agrégats. Là, on est à la fin de la deuxième vie, là. C'est-à-dire, ici, on est dans la première vie. Ensuite, il y a une mort ici, il y a une mort ici, il y a une mort ici, et il y a encore une mort ici. Et dans ces derniers instants de la mort, c'est cette graine karmique qui va être nourrie. Et donc, celle-ci, elle va vraiment donner l'essence à ce qui correspond à cette graine karmique. Mais les morts qui ont eu lieu avant, la soif, l'avidité est devenue, elles ont fonctionné, mais elles ont nourri une autre graine. C'est pas la même graine. Vous voyez le truc? Le fonctionnement du samsara?
Christian, je sais pas pour les autres, mais j'ai du mal.
On va faire une pause. On va faire une pause et je reprendrai avec un exemple. Ne vous inquiétez pas, si vous comprenez pas la première fois, il y a pas de problème. Hein. C'est quelque chose qu'il faut, sur lequel il faut revenir assez souvent. Après, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. On prendra un exemple et vous pourrez. Mais je pense que c'est pas si difficile que ça. Bon, une petite pause jusqu'à quelle heure? 4 heures, jusqu'à 4 heures? 4 heures 5?